création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Il s'appelle Pascal Chakpakian et son livre « Le crépuscule des anges, Arménie, 1915-1921 » parlait de ce pays. Nombreux ont été ceux à évoquer cette terre d'où leurs parents avaient été chassés. L'une avait planté un figuier à Issy-les-Moulineaux pour évoquer l'enfance perdue. L'autre regardait sans fin une lettre racontant le désastre. En 2015, Alain de Valpo s'est engagé dans l'accompagnement d'un événement hors du commun. Le 21 avril, un concert unique réunissait au Théâtre du Châtelet à Paris l'Armenian World Orchestra. Des musiciens et musiciennes venus des quatre coins du monde pour commémorer le centenaire du génocide de 1915. Ils posaient la question « Comment du chaos créer un élan de vie ?» La réponse passe par une œuvre musicale du compositeur Michel Petrosian, « Ciel à vif ». La réponse passe par leur témoignage à vif. Arménia, par Alain de Valpo et Christine Digère.
Je me souviens très bien avoir à plusieurs reprises demandé à ma grand-mère de me raconter qu'est-ce qui s'était passé. Elle commençait et elle avait les yeux remplis de larmes. Et puis elle me parlait, elle me disait « va chercher le pain ». Et ça s'arrêtait là.
Arménia.
Arménia.
Armenia.
Silence.
Tide.
Arménie.
Silence.
Génocide.
Genocide.
Silence.
Silence.
Genocide.
Silence.
Arménie.
Silence.
Génocide.
Génocide.
Իմ ընտանիքի պատմությունը սկսվում է Արևմտյան Հայաստանից, որտեղ նրանք արդեն երկար տարիներ իրենց կյանքն էին անցկացրել.
L'histoire de ma famille a débuté dans l'Arménie orientale. Ils étaient bien établis, ils avaient leur profession, ils avaient leur maison, ils étaient intégrés dans la société et le chemin de l'exil leur a été imposé, le terrible, cruel chemin de l'exil en 1915. Parmi de nombreuses familles, de trop nombreuses familles condamnées à l'exil, très peu ont survécu, ont trouvé la porte de salut. Cela a été le cas de la nôtre, de ma famille, qui s'est établie en partie en Grèce et en partie au Liban. Ce sont deux pays qui ont ouvert aux Arméniens exilés leurs portes et leurs cœurs et nous leur en serons éternellement reconnaissants. Confrontés à de nouvelles réalités et obligés à tout recommencer à zéro, ils ont commencé à pousser leurs racines, à construire la maison, jusqu'à ce que, en 1947, mon père et ma mère étaient déjà petits, ma famille parte en Arménie.
Mon arrière-grand-père était
juriste dans la ville d'Erzurum. Et mon grand-père, c'est celui qui a fui le génocide de 1915. C'était une famille de 11 personnes, donc de parents et 9 enfants, n'ont survécu que mon grand-père, qui avait à l'époque 4 ans, il était né en 1911, son petit frère et sa sœur aînée, qui était une jeune femme de 18 ans. Ils ont fui avec le mari de cette sœur et les deux petits. C'est les deux extrêmes qui ont été sauvés en quelque sorte, parce que les grands pouvaient partir et ils pouvaient porter les petits. Tous ceux qui étaient entre ont été malheureusement laissés en route, massacrés en chemin, etc. Ils avaient fui avec leur mère, qui est tombée malade en chemin, et ils l'ont laissée là, quelque part.
Alors, l'histoire du génocide du côté des grands-parents, donc ceux qui l'avaient vécu un peu dans leur chair, on va dire, était complètement occultée. Ma grand-mère ne parlait jamais de ce qu'elle avait vécu. Nous avons appris le parcours des grands-parents grâce à un livre, un petit livre qu'a fait mon père, en retraçant l'histoire de sa famille, de son papa, de sa maman. Mais les personnes directement concernées, en tout cas en ce qui concerne notre famille, n'aimaient pas du tout parler de ça.
Absence.
Presque comme une marche funéraire pour rendre hommage aux victimes, pour se souvenir, pour ne pas oublier.
Actually, I feel at home everywhere, but I feel homeless at the same time.
À partir d'une certaine époque, il y avait chaque année une sorte de marche silencieuse extrêmement nombreuse qui faisait que les gens marchaient vers le Tizernakabert, qui se traduit par le nid d'hirondelle, où il y a actuellement ce mémorial et le musée du génocide.
Racine, crime, crime, root.
Racine, survie.
Racine,
survival.
Survie, crime.
Survie, crime.
Il y a une image et une photo très très célèbre d'un enfant qui est mort de faim et qui est avec juste la peau sur les os. J'ai presque pas envie de les transformer en mots, en fait, ces images, mais ils ont décapité des gens, ils ont mis leur tête sur des piquets. Et comment un être humain peut en arriver là? Qu'est-ce qui lui passe par la tête au moment où, en coupant cette tête, en plus de l'avoir coupée, il la met sur un piquet pour montrer la punition d'un peuple pour juste être né arménien?
Սակայն հայը պայքարել գիտի, հայը հաղթել գիտի, եւ այդ նման օրինակ է հենց իմ հայրը։
Les Arméniens sont un peuple tenace et courageux, combatif. C'est aussi l'exemple de mon père qui restera toujours un exemple pour moi à suivre, comment vivre et combattre face aux difficultés. Il n'a pas pu faire dans sa petite enfance des études de musique, mais l'appel de son cœur était tellement profond et sincère qu'il s'est attaqué aux études musicales à l'âge assez avancé et qu'il a très rapidement obtenu des succès tout à fait considérables et une renommée mondiale. Et notamment, il est l'un des fondateurs de l'école arménienne de compositeurs.
Alors nous sommes à Yerevan, dans le quartier de mon enfance. Mon collège était là et je passais toujours devant cette maison babylonienne, des pêchers, des cerisiers tout au long des maisons, mais aussi et surtout la vigne, sorte de fruit emblématique. En été, quand les grappes sont mûres, parfois on pouvait les cueillir en passant.
Bonjour, je m'appelle Annie Pogosian, je suis violoniste. Je viens d'Arménie. Quand j'étais plus jeune, j'ai écouté plusieurs histoires qui me font jusqu'à maintenant mal au cœur, que j'imagine que ça passait avec ma famille. Je sais que, par exemple, parmi les grands-parents de mon père, c'est seulement son grand-père qui a survécu.
Mon grand-père n'a jamais voulu parler de ça, il n'aimait pas parler de ce sujet.
Parce qu'il était caché dans un endroit où les Turcs ne sont pas... Ils n'ont pas pu accéder.
Moi, ce sujet ne me concernait pas plus que ça.
Mon grand-père, de côté de mon père, parce qu'il a consacré sa vie à faire tout le monde connaître le génocide arménien. Mais pendant les années soviétiques, ce n'était pas très motivant d'écrire l'histoire du génocide parce que l'État ne soutenait pas. Mais du coup, malgré tout ça, il a écrit plus que 20 livres. Concernant le génocide arménien.
Mais moi, ma prise de conscience du génocide, elle s'origine dans la mort de mon grand-père.
Et jusqu'à la fin de sa vie, il écrivait pour faire connaître à tout le monde qu'est-ce qui se passait.
C'était un personnage, hein, mon grand-père, on le voyait.
Parce qu'il avait plein d'histoires à raconter, des vraies histoires, il faisait beaucoup de recherches. Et du coup, c'est très très riche comme information.
Qui a vécu beaucoup de choses et qui ne parlait donc jamais de ce sujet.
Et c'est très important pour l'histoire du génocide arménien. J'ai son image qu'il était très, très motivé pour faire connaître tout le monde. J'ai ça. Et voilà, je sais que même il n'est pas là maintenant, mais son seul envie, ce serait que les Turcs reconnaissent le génocide. C'est tout.
Le dernier mois, lorsqu'il mourait, il retombait un peu dans l'enfance, il avait des états semi-conscients, et il se souvenait de toutes les étapes de sa fuite avec sa grande sœur. Il avait comme ça des frayeurs et des angoisses qu'il n'avait jamais exprimées de son vivant. Il disait « Oh, voilà, allons là, et ne me laissez pas, s'il vous plaît, je ne peux pas marcher, mais les Turcs vont venir, etc. Et » comme ça, il se souvenait de chaque étape. Donc, ça m'avait assez bouleversé, parce que c'était pas du tout un type du genre à s'angoisser, etc. C'était la force elle-même, une sorte de type sculpté dans la roche. Il avait une force physique jusqu'à 70, 80 ans, assez impressionnante.
Je porte le fardeau du génocide depuis que j'en connais les tenants et aboutissants, depuis que j'ai lu et depuis qu'on m'a relaté les faits Et rien que d'y penser, je suis, j'allais dire mal à l'aise, mais le mot est faible. Je suis énervé, je suis dans tous mes états. Parce que ce crime n'a pas été puni. J'allais dire, ça c'est un détail, mais avant tout, il n'a pas été reconnu par ses auteurs. Et je peux vous dire que le fardeau que je porte avant tout, c'est celui-là. C'est un double crime, finalement. Le crime en soi et le déni du crime, qui est peut-être le plus terrible.
Chaos, renaissance,
hier,
chaos,
qui étions-nous?
Humanity,
chaos,
humanité,
hier,
chaos,
humanité,
qui étions-nous?
Humanity,
renaissance,
yesterday, who were us?
Renaissance,
hier,
qui étions-nous?
Renaissance.
Nous sommes dans une rue assez pittoresque où il y a des maisons familiales. Alors cette maison-là en particulier, devant laquelle nous nous trouvons, m'a toujours fait rêver. Je l'appelle la maison babylonienne. Alors elle a plusieurs particularités. D'abord, elle est en tuf noir. Le tuf, sorte de pierre volcanique, est omniprésente en Arménie. Et puis elle a une sorte d'escalier très particulier qui me rappelle les ziggourats babyloniennes. Ça évoque au fond ce que l'Arménie est en grande partie pour moi, c'est-à-dire non seulement une culture singulière que j'aime énormément, mais aussi le conservatoire de toutes ces civilisations du Proche-Orient ancien, civilisations immenses qui, en partie ou même totalement, ont disparu. Rien que dans les noms propres, dans les prénoms arméniens, quand on retrace les origines, eh bien on trouve des divinités zoroastriennes, on retrouve des noms babyloniens, on retrouve des noms hittites, on retrouve pas mal de noms qui proviennent de l'Ancien Testament, etc. Donc il y a parfois des styles architecturaux qui peuvent être reliés à des choses que l'on retrouve en Perse, en Irak, etc. Et moi, ça me fascine depuis toujours.
Շուշտ իմ համար Հայաստանը այսօրվա անկախ Հայաստանն է եւ այն, որը ես ճանաչում եմ, այն, որը ես այնտեղ
որտեղ եմ ապրում, l'Arménie à laquelle je pense et dont je parle, c'est l'Arménie d'aujourd'hui.
Ինչ է նշանակում? Միգուցե
l'Arménie indépendante, celle que je connais et où je voyage souvent.
Առանց ճանաչելու,
quant à l'Arménie occidentale, c'est une partie ancestrale,
ես կարոտում եմ
lointaine et inconnue à laquelle on pense quand même et qui suscite des sentiments douloureux et nostalgiques.
Իր մեջ անշուշտ մի ցավալի թաղծոտ, այսպես տխրություն է նշանակում. Երկար տարիներ ես վստահ
Pendant longtemps j'ai hésité à y aller. J'ai répugné d'aller en Turquie car je ne voulais pas passer dans les chemins où le sang de mes grands-parents a été versé.
Այդ սարսափելի ճանապարհն են անցել, լինել այդ հողերում իմ համար առանձնապես չէի ցանկանում։ Հետաքրքիր է, որ այժմ
Aujourd'hui, j'ai suffisamment mûri pour aller quand même respirer cet air et voir ce ciel sous lequel vivaient nos ancêtres.
Մեր պատմության հետքերով գնալու
Alors là, nous passons dans un endroit borgésien pour moi. C'est vraiment l'Aleph, vous savez, cette nouvelle de Borges, où il trouve un point focal, un lieu où tout l'univers se concentre. Puisqu'on passe de cette rue, à travers cette petite porte de passage qui fait la jonction, d'un univers à l'autre. C'est-à-dire ce qui va s'ouvrir sous nos yeux. Rien de ce qui précédait ne laisse présager ce qu'on va voir maintenant.
temps passe, mais les choses ne changent pas. Et pour d'autres, heureusement, c'est que c'est la mémoire du peuple arménien et qu'on est toujours aussi conscient de ce qui nous est arrivé. Et un peuple, c'est un peu comme une très grande famille. Et quand un malheur comme ça qui arrive, bah forcément, on est blessé à vie.
L'Arménie, c'est mon pays. L'Arménie, c'est un pays qui a droit et qui est en train de se développer. Malgré qu'on a un petit territoire, tout petit, et on n'est pas très, très bien placé. Mais quand même, grâce au peuple arménien qui n'a jamais perdu leur espoir, ça a permis de continuer à vivre, même malgré les chagrins qu'on a eus.
Yeah, tragedy. So we all are human beings, so it's equally understandable for any of us, any nationality. So it doesn't matter you are French, Armenian, English, so it's equally painful. So we understand each other.
De 1586 jusqu'ici, vous avez une sorte d'alternance entre les chœurs et les bois. C'est parce que les bois font le même accord à 595, un peu plus tôt. Et en fait, les solistes sont entre vous. Les chœurs sont là, l'orchestre est là, et les solistes sont au milieu. Et là, c'est l'endroit où c'est le plus sensible. Alors, c'est très beau la couleur de l'accord, juste à 597, à 600 en fait, il faut veiller à la palette dynamique. Ça part du pianissimo jusqu'au mezzo forte, ensuite piano forte et ensuite mezzo piano fortissimo. Il faut vraiment qu'on entende cette gradation. Et la même chose, il y a vous, il y a les bois, il y a vous, il y a les bois. Donc, vraiment qu'on entende cette couleur. Et vraiment couper sur la double, vous tuilez, hein, c'est un tuilage avec les bois. Vous vous arrêtez, les bois commencent, etc.
Alors, mon lien avec l'Arménie a surgi à un moment donné de ma vie, j'avais à peu près 20 ans, grâce à la musique, grâce au violon. Je me suis retrouvé un jour à 20 ans à Erevan, capitale de l'Arménie actuelle, au conservatoire, dans la classe de violon, et j'ai fait un séjour de plus ou moins 6 ans. Et je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Et c'est vraiment là que j'ai senti pour la première fois que j'étais arménien des pieds à la tête, de par le sang qui coule dans mes veines. C'est comme si ces 5 années ont fait de sorte que jusqu'à maintenant, moi j'ai l'impression d'être né en Arménie. Tout en me sentant profondément de culture française. Mais je pense que dans mon fort intérieur, ce qui a pris le pas maintenant, c'est mon arménité.
Il y a un motif là de chœur qui m'obsède. Il est au chœur, il est aux cordes, au piano là. Voilà, quelque chose comme ça. C'est une sorte de battement de l'infini regret, vous voyez. Et
Et oui, comment du chaos créer un élan de vie? Alors c'est très important, l'élan de vie. Je trouve que l'art a une fonction prophétique dans la société. C'est d'abord une dimension qui résiste à la réification du monde. Lors de l'écriture de cette œuvre, évidemment, il ne s'agit pas simplement de commémorer un événement qui s'est passé il y a 100 ans, aussi tragique soit-il et aussi concerné soyons-nous. Ce que nous cherchions, c'est ne surtout pas rester en hommage larmoyant en club privé. Il ne s'agit pas d'estomper l'événement principal qui nous rassemble. Mais malheureusement, on voit qu'il est de toute actualité. Quand on voit ce qui se passe avec les chrétiens d'Orient, on voit bien que c'est quand même ces grands heurts dont notre monde est aujourd'hui en proie, monde agité.
Aujourd'hui,
qui suis-je?
Today, qui suis-je?
Qui sommes-nous?
I am, qui sommes-nous?
Aujourd'hui,
who are we?
Qui suis-je?
Qui sommes-nous?
Et alors j'ai voulu aussi incorporer un peu plus d'éléments qui ont trait au monde assyrien. Il ne faut pas oublier aussi ce que les Assyro-Chaldéens ont subi, en même temps que les Arméniens. Les Grecs, bien sûr. Il y a donc la mélodie, l'épitaphe de Seikilos, la plus ancienne musique, la plus ancienne partition complète qui nous est parvenue, qui est une petite berceuse dont le texte, et sans doute les tournures mélodiques, préserve l'écho de l'Arménie pré-chrétienne. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'Arménie m'intéresse, comme culture en soi, comme aussi évidemment mon propre patrimoine, mais aussi comme un conservatoire du Proche-Orient ancien. C'est presque l'aspect qui me fascine le plus. Je pourrais presque la chanter.
Իմ սերունդը ծնվել է արդեն Հայաստանում։ Մեր կյանքը եղել է բացարձակ այլ կերպ։ Եվ մենք ապրել ենք խաղաղության մեջ, սակայն
J'appartiens à cette génération d'Arménie qui n'a bien entendu rien connu de ce que nos ancêtres, nos grands-parents ont connu. Nous avons une vie tout à fait paisible et tranquille.
Մեզ նույնպես շատ հուզող է եւ շատ ցավալի անշուշտ։
Mais n'empêche que nous conservons la mémoire du génocide au niveau des gènes par une transmission dans notre sang. Et c'est douloureux et émouvant et terrible à porter, même si certains dans notre génération essayent de passer outre, de surmonter cette douleur, n'empêche qu'elle est toujours présente.
Երկու զավակներն էլ հրաշալի խոսում են հայերեն եւ հետաքրքիր է որ ես իրենց առանձնապես որևէ բան չեմ պարտադրում
Nos deux enfants parlent parfaitement arménien et ce qui est étonnant c'est que sans que nous ayons rien imposé ni voulu ils ont en quelque sorte perçu intuitivement cette arménité que nous vivons au quotidien dans notre famille ce qui fait que comme nous ils s'intéressent à l'Arménie, ils vivent par la vie de l'Arménie et quand on va en Arménie, ils se sentent parfaitement chez eux.
La langue arménienne, évidemment, c'est un lien très fort entre les Arméniens du monde, entre toute la diaspora. En fait, le plus incroyable, c'est d'entendre des gens parler bien l'arménien en n'ayant jamais habité en Arménie. Et puis surtout cette envie, en fait. Il y avait un monsieur un jour en Argentine, s'est excusé d'avoir l'accent espagnol dans son arménien en se disant voilà, c'est, je suis désolé, j'ai un petit peu, je crois que j'ai un petit peu d'accent espagnol dans mon arménien. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave du tout. C'est déjà génial de parler avec un vocabulaire aussi poussé.
Qu'est-ce que l'arménité aujourd'hui ? En tout cas, l'arménité, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un définirait extérieurement. Un arménien serait le membre de l'Église apostolique arménienne, aimerait telle ou telle chose, n'aimerait pas telle autre. Pour moi, ça ne serait pas à définir par les restrictions et par les limitations, mais au contraire, cette espèce de mélange unique, c'est une phrase cliché, mais je crois qu'elle se vérifie vraiment, cette espèce de lieu de partage, une crête de partage entre l'Orient et l'Occident. Vraiment, on retrouve en Arménie des aspects qui sont propres aux deux univers. Je crois qu'en cela, l'Arménie et l'arménité, c'est quelque chose d'assez moderne en fait, puisqu'on est un peu à l'écoute de différentes vibrations civilisationnelles, et ce mélange assez unique, je le ressens très fortement, je le revendique, je l'aime et je le chéris, mais non pas comme une sorte de dépôt sacralisé qu'il faut absolument préserver, mais plutôt comme une source dynamique, comme quelque chose qui est en mouvement pour moi, et qui aussi se confirme à travers des rencontres. Quand je rencontre des gens d'origine arménienne, que ce soit ici ou partout ailleurs, ce sont toujours des destinées assez singulières et qui se nourrissent de plusieurs sources. Alors, il y a un temps pour pleurer, un temps pour le deuil, etc. Mais lorsqu'on vit dans le deuil, c'est la vie qui se retire. Moi, je préfère ne pas vivre dans le temps pour rire, mais dans le temps où on affirme l'élan vital. Cette exaltation de la mort, cet élan mortifère est quand même présent hein, dans notre culture. Et tout ce qui est producteur de vie, tout ce qui pourrait susciter la vie, est recherché par tous. Quelquefois, il y a des aspects qui apparaissent comme affirmant la vie, et au fond, ça tourne court, hein, la fusée ne s'envole pas. Et lorsqu'on a touché le fond, et parfois il faut même presque le toucher exprès, pour rebondir. Donc en cela, ce projet pourrait intéresser tous ceux qui n'ont pas de lien avec la culture arménienne, qui n'ont pas de sympathie particulière pour cette cause, mais qui, à partir d'un drame individuel, peut ouvrir sur l'universel. Et ça, je crois que c'est le propos de tous les organisateurs. Je sais qu'Alain Altinoglu, c'est un sujet qui lui est très cher aussi. Cette espèce d'affirmation universelle, l'espérance, alors chacun la puise dans les sources qui sont les siennes. Voilà, on a besoin d'entendre une œuvre qui nous dit ce qu'il y a de meilleur en nous et qu'il y a une espérance malgré l'horreur.
Non seulement l'histoire balbutie, bégaye, mais elle se répète.
Qui ça ?
Quand je vois qu'est-ce qui se passe en ce moment en Syrie,
on le voit aujourd'hui, l'histoire se répète.
Ça me choque.
Au Moyen-Orient, particulièrement.
Je ne suis pas seule personne à qui ça choque.
J'ai l'impression de...
Mais qui ça ?
D'avoir déjà lu.
Oui. La génocide arménien, ça s'est passé en 1915.
Cette histoire, quelque part.
Mais maintenant, on est à 2015.
Et c'est très grave.
Il n'a pas pu faire de nous des humbles. On n'a pas su, on n'a pas voulu.
Même si en 1915, c'était pas humain, on ne comprenait pas. Et maintenant...
Mais je me dis que c'est peut-être parce que... Un jour, il y a eu...
Après toutes les lois qui ont été adaptées, toutes les institutions publiques qui existent, qui pénalisent Dieu, la génocide, et ça se passe maintenant, c'est...
Un premier crime.
C'est...
Dans la région.
Insupportable pour moi.
Qui n'a pas été reconnu. Et qui n'a pas été puni.
J'imagine les familles qui souffrent.
À sa juste valeur. Un criminel.
Il n'y a pas beaucoup d'aide, il n'y a pas... beaucoup de solutions de notre pays.
Quel qu'il soit.
Voilà, mais...
S'il n'est pas jugé.
C'est affreux.
S'il n'est pas puni. il n'y a pas de raison qu'il ne recommence pas.
Je ne trouve même pas des mots pour exprimer.
Et c'est ce qui se passe.
Comment c'est possible?
Aujourd'hui.
Ce n'est pas humain. En 1915, ce n'était pas humain. En 2015, ce n'est pas humain. Et toujours, s'il va passer un génocide ou quelque chose contre l'humanité, ça ne se passe pas. C'est insupportable. Il faut se battre contre ça.
Mais ceci dit, aujourd'hui, ces gens se retrouvaient comme nous dans quelques années, c'est-à-dire comme le peuple arménien, c'est-à-dire disséminé de par le monde, déraciné, et il va falloir, tout comme nous, il va falloir qu'ils s'adaptent. Et ils s'adapteront parce que l'humain est fait de telle sorte qu'il peut franchir tous les obstacles, mais qu'il n'oublie jamais ce qui s'est passé. Parce que l'oubli de l'histoire, c'est la perte de son identité. Donc nous avons pu créer, à l'occasion de ce concert dédié à la mémoire des martyrs, nous avons pu créer donc une pièce de Michel Petrosian, Ciel à vif. Rien que le titre, moi je vois ciel à vif et je vois écorché vif, je vois du sang. Je vois du sang.
Ciel à vif.
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 Quand j'ai lu le titre, je m'imaginais, enfin j'ai la vision d'un ciel qui se déchire en deux. Disons que c'est graduel. Nous, en tant que musiciens, on reçoit la partition, il n'y a que notre instrument écrit dessus, donc on travaille de notre côté, on se dit bon, ça ressemble à ça, à ça. Ensuite, commencent les répétitions, et là on dit, ah, moi je ramène ma pièce du puzzle, on est en train de former le puzzle. Ah oui, effectivement, ça, le compositeur a fait un bon travail, parce que on n'est pas forcément dans du mélodique, dans de la musique harmonique et harmonieuse. Et le fait de rapporter toutes ces pièces du puzzle, ça nous donne une composition qui est vraiment intéressante, avec les chœurs, avec tous les instrumentistes. Il a utilisé des accessoires, ou alors les chœurs qui rentrent comme un chant qu'on a l'habitude d'entendre le dimanche à l'église arménienne.
C'est évidemment en musique que je suis parti pour la première fois d'Arménie, et le petit orchestre de chambre qu'on formait à l'époque avec des amis quand j'avais 15 ans, et ben, il y en a beaucoup qui sont aussi partis d'Arménie.
On se sent vraiment arménien, écoute cette pièce. Et le fait d'avoir appelé des Arméniens qui venaient de tous les pays, tous les horizons.
Il y en a qui sont en Suisse, d'autres qui sont en Allemagne, d'autres au Portugal. Et
c'est une union pour prouver qu'on a une force de pouvoir organiser un tel événement.
Chacun a fait son chemin. Je suis ravi de pouvoir les retrouver pour cette occasion.
C'est extraordinaire de pouvoir rassembler tous ces musiciens.
Et on se retrouve un petit peu dans une configuration qu'on connaissait en fait à l'époque, qui était notre passion, qui était la musique.
On réalise la chance qu'on a. Et on est vraiment content d'avoir été choisi pour venir jouer. D'ailleurs, on joue bénévolement. Il y a des gens qui viennent de loin, ils ont un travail, ils ont dû le laisser pour quelques jours pour venir faire cet événement-là.
Et aujourd'hui, au Théâtre du Châtelet, c'est quand même une magnifique raison et occasion de se retrouver tous ensemble.
je raisonne en termes de nécessité. Lorsque j'avais mis un peu la musique à l'écart, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens de tout profil, hein, couche sociale, origine, etc. Et on pouvait se demander à quel degré une musique contemporaine pourrait être pertinente, vitale, pour les gens qui habitent, par exemple, la chaîne des montagnes de Zagros en Iran, ou dans le désert de Negev. Et je me souviens de cette histoire qui m'a toujours parlé, marqué. Vous savez, lorsque Shostakovich écrivait sa 7e symphonie, dite Leningrad, donc il l'écrivait pendant que cette ville a été encerclée par l'armée nazie, 900 jours du blocus de Leningrad, hein, un épisode historique célèbre. Cette œuvre a été donnée à Leningrad, Saint-Pétersbourg d'aujourd'hui. Les gens troquaient leur carte de rationnement pour pouvoir venir assister à ce concert. Et la ration des musiciens a été doublée pour qu'ils puissent être en forme, etc. C'est une illustration, dans les faits, de la place que la musique occupait et qu'elle devrait occuper. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de prophétique, il y a quelque chose de vital, il y a une nécessité, c'est pas un produit de luxe pour une certaine catégorie de personnes qui sont suffisamment raffinées pour l'apprécier, mais c'est quelque chose qui nous fait vivre. Et pour moi, il faut absolument retrouver cette nécessité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur nous-mêmes, sur l'autre, sur l'humanité en général? Bon, c'est des phrases un peu grandiloquentes, mais il ne faut pas non plus les écarter. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Et moi, je ressens une nécessité intérieure, il faut encore l'articuler, il faut encore que cette nécessité soit incarnée, soit perçue.
Life.
Humanity.
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 Life.
Humanity.
Life.
Humanity.
V. Humanity.
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 Life.
V. Humanity.
V.
Life.
Humanity.
Life.
V.
V.
Humanity.
V.
Humanity.
Humanity.
Vous voyez, il y a le fait qu'il y a cette rencontre, ces musiciens sont extrêmement motivés, il y a une attente. Qu'est-ce que vous pouvez produire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Et pour moi, c'est très important de dire que ce n'est pas le concert des survivants, ce n'est pas l'aspect hommage larmoyant, mais je raisonne en termes de dépassement. Il y a cette énergie vitale, cette affirmation de vie. Et pour moi, la meilleure réponse à ce projet meurtrier qui a voulu éradiquer une culture et une civilisation.
La première répétition, quand on arrive, et bon, c'est à l'arménienne, hein, tout le monde arrive en retard, ça parle beaucoup, mais c'est génial d'arriver dans un orchestre, c'est la première fois de ma vie où j'arrive dans l'orchestre, tout le monde parle arménien. Même le chef qui donne les indications en arménien. Bon, après, il y a quelques Français donc qui traduisent, mais oui, c'est génial.
Le thème
Urach Yerevan, Urach Hayastan.
Ça veut dire
l'Arménie joyeuse, l'Arménie heureuse, avec une vitalité extraordinaire, une jeunesse aujourd'hui qui est pleine d'espérance, de dynamisme, qui sait se parler, qui sait se rencontrer, qui est ouverte vraiment sur le monde et qui est à la fois très enracinée dans le pays et qui rêve aussi de l'extérieur et puis qui chante encore.
Bonjour, je m'appelle Alain Altinoglu. Ciel à vif, alors la pièce de Michel Petrosian est une pièce extrêmement forte, aussi par sa spatialisation géographique, c'est-à-dire qu'il a placé des chœurs en face, mais aussi dans les corbeilles au Châtelet qui vont être à droite à gauche, des trompettes, le trio de solistes qui est séparé. Il y a plusieurs langues qui sont utilisées dans sa pièce, des langues ancestrales comme l'hébreu, l'arménien, évidemment l'anglais, le français. Et il utilise beaucoup de percussions qui donnent cette impression de chaos, comme la grosse caisse ou des instruments extrêmement profonds. Et puis des instruments liturgiques arméniens, comme le soleil des clochettes qu'on utilise à l'église, ou l'encensoir qui est très utilisé tous les dimanches à la messe. Donc c'est une pièce qui fait aller, grâce à ces instruments de percussion aussi, à l'utilisation, l'orchestration du chaos jusqu'à la lumière.
Մեծ պատիվ էր նաև իմ համար որպես երաժշտի, մեծ պատասխանատվություն որպես հայի, այս միջոցով խոսել և պատմել հայ ազգի պատմությունը։ Եվ կարծում եմ, որ այդ մի
փոքր Cela a été pour moi un grand honneur et une grande responsabilité à la fois en tant que musicienne et en tant qu'arménienne de joindre ma voix pour parler ensemble, pour parler en chœur de l'histoire de l'Arménie. Et j'ai ressenti, nous avons tous ressenti ce dévouement autour de la même passion, autour du même sujet. C'était quelque chose de tout à fait mémorable.
Հետաքրքիր էր, որ այս օրերը անցան շատ, ասպես զգացմունքային առումով շատ բարձր վիճակում և տխրություններ
շատ, ուրախություններ, un mélange d'émotions très fortes.
Je vois ça dans leurs yeux, cette envie de jouer, ce plaisir de faire de la musique ensemble. D'être à la tête de cet orchestre, c'est aussi ce plaisir-là. Ça me rappelle un peu quand parfois je dirige des orchestres de jeunes, et il y a ce pétillement dans les yeux, cette envie de jouer, et ça je le ressens ici avec cet orchestre. Et il y a cette magie, alors au concert symphonique, il y a la magie de l'accord. D'abord l'orchestre accorde, le hautbois donne le la, puis on entend une cacophonie comme ça, et je trouve cette cacophonie magnifique. Moi, je l'aime beaucoup, elle se ressemble assez dans les orchestres du monde. Puis il y a un silence, le chef rentre, et puis la musique naît du silence, et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et le silence avant, après la musique est très important.
Thank you.
Nous nous sommes retrouvés, un orchestre de 60-70 musiciens, tous arméniens. Certains venaient du Mexique, d'autres de Los Angeles, de Bruxelles, de Paris, d'Espagne, de Portugal, d'Allemagne, enfin, de Erevan. Et finalement, nous nous sommes réunis pour commémorer ensemble musicalement une tragédie. Mais notre rencontre fut aussi la source d'une joie. La joie finalement d'être là en tant qu'Arménien. Et on a fait ça dans une joie profonde.
Le concert pour moi, c'est l'occasion de puiser en fait en moi, de pouvoir donner, en tout cas musicalement, parce que malheureusement, je ne sais rien faire d'autre que de la musique. Et en musique, c'est comme une revendication et comme une envie d'être là pour mon peuple. On a envie de rendre hommage presque à chaque concert à quelque chose qui nous choque, à quelque chose qui nous révolte, à quelque chose qui nous donne envie d'engager et de donner ce qu'on peut donner à notre échelle pour que le monde aille mieux, si possible.
Ok, attendez.
On a 7 minutes.
Alors Malatia, la flûte. Voilà, flûte.
Où est la flûte?
Elle est là. Malatia, flûte.
Non, je ne sais pas si j'ai réussi, mais moi, en tout cas, je visais le fait qu'il y ait un souffle, le fait qu'il y ait un élan, justement quelque chose qui rassemble, et pas seulement la diaspora, enfin tous les spectateurs et tous les auditeurs. Je crois que l'orchestre bien conçu, c'est justement une métaphore où il y a différentes voix, différents timbres, qui sont complémentaires, il n'y a pas forcément une hiérarchie, en tout cas pas stricte. On ne peut pas dire que la flûte est moins importante que le violon 1. Mais justement, c'est dans cette complémentarité des couleurs, où chaque voix est distincte, qu'on peut créer un son commun.
Je ne sais pas si ça va bien sortir.
On a plusieurs doudouks, hein, tous les joueurs doudouks de plusieurs tailles différentes. Donc il y a du grave, qui les instruments sont plus longs, et puis de l'aigu. Donc ce soir au concert, il faut que je joue deux doudouks, un en ré et un en la. Donc le ré est beaucoup plus aigu, c'est un soprano. Je le vis d'une manière, je tiens à garder beaucoup de respect pour justement mes grands-parents. Et malgré que je ne les ai jamais rencontrés, j'ai eu mon père au téléphone qui sait que je joue ce soir, surtout au doudouk. Et il m'a dit une phrase qui m'a un peu marqué, il m'a dit fais-le pour tes grands-parents parce que de là-haut, s'ils te voient, sûrement ils te verront et c'est une chose qu'ils apprécieront. Donc, à travers la musique, j'essaie, surtout au doudouk, c'est un devoir de mémoire que j'essaie d'interpréter sur scène.
Demain, que rêvons-nous de devenir? Que rêvons-nous de devenir?
Tomorrow. What we dream to become.
What we dream demain, to become.
Demain. Que rêvons-nous tomorrow. De devenir?
What we dream to
what
become.
What we dream tomorrow. To become.
Tomorrow.
Demain. What we dream to become.
Demain.
What
que rêvons-nous de devenir?
Que rêvons-nous de devenir?
Demain.
Demain.
Que rêvons-nous de devenir?
Que rêvons-nous de devenir? Rêvons-nous de devenir?
Tomorrow.
Tomorrow.
What we
what
dream to
we
become.
Dream to become.
Demain.
Tomorrow.
Que rêvons-nous de devenir?
What we dream to become.
Why did it happen? Looking for a response, an answer. Why did it happen? The question will continue. Why did it happen?
Pourquoi le mal? On a vraiment dans la littérature égyptienne le dialogue du malheureux avec son âme. On a ces interrogations dans le Gilgamesh, etc. Dans la Bible, il n'y a pas cette réponse à la question pourquoi le mal? Mais il y a la réponse à la question « comment s'en sortir ?» L'affirmation de cet élan de vie, élan d'espérance, non pas « pourquoi le mal ?» mais « quelle réponse apporter ?» voilà.
Arménia.
Arménia.
Armenia.
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 Avec la participation des musiciens Daniel Nazarian, Annie Pogosian, David Aroutunian, Nariné Delélian, Tamar Eskenian, Pierre Aram Nazarian, Pierre Bédrossian, Varoujan Bartikian. Du compositeur Michel Petrossian, du chef d'orchestre Alain Altinoglu. Mixage Claude Niort. Coordination Inès De Bruyne et Irène Omelianenko, avec le soutien de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne et l'aide à la traduction de Karina Laverdian. Armenia, Christine Digère, Alain De Valpo.
Finalement, c'est ça l'avenir. Oui, on se lamente, mais ce n'est pas une lamentation négative. On se lamente pas trop, on proteste contre ce déni. Et on se souvient, on commémore nos martyrs, mais de l'autre côté, notre peuple avance dans la vie, et la vie... C'est la culture, c'est la musique, c'est l'éducation, l'instruction, la foi en nos traditions. Et je pense que nous sommes dans le vrai et dans le juste.
Écoutez France Culture. Demain, dans Création On Air, Delphine Salquin rencontrera ses voisines en compagnie de Marie-Laure Ciboulet. Dans quelques instants, Philippe Garbi enchantera votre nuit avec des rediffusions d'exception.